Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Moi, je souhaite au documentaire de l'argent, du rayonnement, parce que ça fait des films qui font changer, je trouve, les mentalités.
Dans les 5 dernières années, le nombre de longs-métrages documentaires financés par Téléfilm Canada est passé d'une 20aine à une 30aine de films. Le format documentaire est-il de plus en plus populaire ou c'est la présence de vedettes dans de nombreux documentaires ces dernières années qui donne l'impression qu'il y en a davantage? Pour en discuter avec moi, Léa Clermont-Dion, cinéaste, qui a co-signé avec la réalisatrice Guylaine Marois le documentaire « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique. »
40 000 insultes, menaces de mort et menaces de viol.
Ils nous menacent de nous battre, de nous violer, de nous tuer. Puis vous pouvez pas nous protéger.
La réalisatrice Zainé Akyol, qui signe son 2e long-métrage réalisé en territoire kurde, qui va à la rencontre des membres incarcérés de l'État islamique.
Dans l'État islamique, il y avait un grand respect pour la femme. Je me sentais vraiment dans un monde où la femme est quelque chose de sacré.
Et Ayana Oshun, qui est actrice et réalisatrice, qui a signé le long-métrage documentaire Le mythe de la femme noire. C'est un long-métrage qui déboulonne, qui enquête sur l'image des femmes noires dans la société d'aujourd'hui.
Nous sommes les nounous et nous sommes les mamies. Et on voudrait que nous ne soyons que ça. C'est ça le problème.
Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Je vais vous lancer une question assez générale pour commencer. Je suis curieuse de savoir, selon vous, comment se porte le documentaire au Québec? Je vais commencer avec toi, Yana.
Bien, le Québec a une longue tradition de documentaire qui date de l'ONF des années 60 et tout ça, où il y a eu une effervescence. Puis je pense qu'avec les années qui ont passé, la place du documentaire au Québec en particulier, puis dans le monde, je vais dire en général, ça va extrêmement bien. Il y a énormément de bons et de bonnes cinéastes qui font des bons films, des films qui leur tiennent à cœur. Je trouve que c'est un milieu hyper dynamique. Puis en plus, de l'autre côté, je trouve que le public est prêt de plus en plus et est de plus en plus friand de ce genre de films-là parce qu'ils sont en quête de vérité, en quête d'authenticité. Puis c'est ce que le documentaire offre.
Zainé?
Par contre, ce qui est plus difficile en documentaire, c'est de vivre du documentaire. Puis là, on a appris une des bonnes nouvelles de la SEDEC puis de Téléfilm qui augmentait le financement des films documentaires. Donc, je pense que ça fait en sorte qu'on peut espérer en faire pour longtemps. Mm.
Léa?
Ben moi, je trouve que c'est le fun ce qui se passe. Il y a un beau rayonnement, puis enfin, on considère avec sérieux le documentaire. T'sais, le documentaire, ça a souvent, je trouve, été dénigré comme étant des films de second ordre, alors que c'est du cinéma. Mm. Par contre, je trouve qu'au Québec, en ce moment, il y a une confusion à l'égard du documentaire. À cause de la télévision et du cinéma, il y a des attentes face au documentaire télévisuel. Donc, on s'attend à avoir des personnalités publiques qui portent un message ou une quête. Et des fois, je trouve que ça fait en sorte qu'on a des attentes face au documentaire cinéma qui va être en salle, alors qu'on s'attend d'un film en salle qui a une approche, qui a un traitement, etc. Mm. Et je ressens une pression en faisant des films documentaires de répondre à ce besoin-là qui est imposé finalement par un traitement très télévisuel. Mm. Alors, je trouve qu'il y a trop de vedettes qui font des films documentaires puis qu'on sent que c'est pas nécessairement naturel, que c'est un petit peu plaqué, etc., puis que la quête est pas si profonde que ça. Puis là, je m'excuse de dire ça, je veux pas insulter personne, c'est juste une réflexion que je me fais. J'ai comme le goût qu'on célèbre le film documentaire pour ce qu'il est, qu'on arrête de nous obliger à faire des films télévisuels avec un format très précis. Voilà.
Et d'avoir un attrait, justement, de personnalité qu'on dit que ça va augmenter la cote d'écoute, ça va augmenter l'intérêt.
Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu les deux, donc je vois un peu le traitement qui est différent d'une part et d'autre. On a une pression, là, aussi pour performer quand on fait du documentaire à la télé, qui est bien, qui est sain, mais qui peut influencer l'approche.
Zainé, t'allais ajouter quelque chose?
En fait, on le remarque beaucoup dans les Q&A qu'on fait quand les gens sont habitués à la télévision, documentaire, reportage, disons, mm-hmm. puis qu'ils vont nous dire, mais moi, dans mon cas, souvent, on va me dire, mais pourquoi tu n'as pas mis de carte? Pourquoi tu ne nous expliques pas? Fait qu'il y a une éducation à avoir, justement, entre la différenciation qui est immense, au final, là, même dans les professionnels du milieu aussi.
Oui, je pense qu'il faut expliquer ce que peut être le documentaire. Moi, on m'a demandé si j'avais fait mes entrevues parce que je suis pas dans le film. T'sais, on m'a dit, ah, c'était toi qui as fait ça ou t'as acheté tes entrevues. T'sais, ça demande une éducation aussi, puis de s'ouvrir à d'autres formats, puis d'autres formes, puis d'autres traitements.
Puis en même temps, tu voulais servir un propos. Tu voulais pas te mettre de l'avant.
Ben non, je veux pas mettre de l'avant. J'ai pas envie de me mettre de l'avant, là. Mais des fois, on nous demande ça.
Vous avez signé toutes les trois des documentaires hyper engagés avec des thèmes qui sont assez différents, mais je suis sûre que vous avez probablement la même passion. Et je pense que quand on s'engage dans un documentaire, c'est qu'il faut avoir soit des convictions, de où ça part selon vous quand on a l'idée, parce qu'il faut porter un projet, puis je sais que c'est pas facile de mener un projet comme ça à terme. Léa?
Oui. Ben moi, ça vient vraiment du ventre, là. Je veux dire, ça vient des tripes, ça vient du cœur. C'était une nécessité pour moi de faire ce film-là. Il n'y avait pas de comme, ah, ça serait bon pour ma carrière. Non, non, je l'avais dans le ventre, ce film-là, puis il fallait absolument que je le fasse. Et moi, mon envie de faire du documentaire, elle date de mon enfance. Je veux dire, j'avais 13, 14 ans, 15 ans, et je voulais faire du documentaire. Je m'intéresse aux humains. Je m'intéresse aux personnes. Et là, ce film-là, j'avais la conviction instinctive. C'est l'instinct là, qui m'a amenée vers ça, qu'il fallait le faire. Mais c'était pas dans une volonté d'engagement ou de militantisme. Il y a des gens qui ont dit que c'était un film militant que j'avais fait avec Guylaine. Bon, j'avais pas réalisé que c'était militant tant que ça. Finalement, nous, on voulait exposer les violences dans un film, tout simplement. Mais c'est effectivement, ça vient d'une indignation. La création vient souvent d'un sentiment très, très fort. Et là, dans ce cas-là, c'était l'indignation.
Et si on t'avait dit au départ que c'était pour te prendre 7 ans à faire ce film-là?
On me l'a dit.
On te l'a dit?
On me l'a dit. Moi, ça ne me dérange pas. Ben, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments de fatigue. Il y a eu la pandémie qui n'a pas aidé. Il y a eu 2 enfants qui sont arrivés. T'sais, moi, j'ai été enceinte et j'ai accouché. Donc, durant le processus. Oui, c'est long faire un film, mais ça va. Ça fait partie du processus, je pense. C'est ça.
Zainé, toi, ton film, tu l'as fait en réaction à un premier documentaire que tu avais fait. Raconte-moi un peu, justement, la genèse. Comment t'es allée chercher ta deuxième idée bâtie sur la première?
Eh boy, est-ce que tu veux la version courte ou la version longue?
Parce que... Sinon, on va te couper. Fais-moi les grands lignes.
Ben en fait, tu le dis bien, parce que c'est vraiment instinctif, moi aussi. Puis ça part de mon histoire personnelle. Bon, j'ai immigré quand j'étais très jeune, à l'âge de 4 ans et demi, avec ma famille, d'un petit village en Turquie, vers Montréal. Puis à cette époque-là, donc, on n'avait pas le droit de parler kurde, puis de même s'identifier à notre communauté. Fait qu'il y avait une répression qui était très vive, non seulement en Turquie d'où je viens, mais aussi dans les 4 parties dans lesquelles les Kurdes sont, donc l'Iran, l'Irak et la Syrie. Fait que quand on est arrivé à Montréal, ben finalement, on avait cette nouvelle liberté-là. Ce qui fait qu'aussi les gens se réunissaient dans un centre communautaire et ils planifiaient souvent des activités culturelles, des conférences politiques pour dénoncer justement ce qui se passait dans ces pays-là. Fait que j'ai grandi dans un univers hyper politisé, très jeune, au contact de politiciens, de toutes sortes de figures kurdes qui s'exprimaient finalement librement. Et c'est aussi c'est à cette époque-là que j'ai rencontré une jeune femme qui devait avoir à peu près 18 ans. Puis moi, j'avais 6 ans. Et cette jeune femme-là, donc, elle parlait kurde. Moi, je ne parlais pas français à cette époque-là. Puis je m'identifiais beaucoup à elle parce qu'elle venait de mon village. Elle avait... elle était belle, elle était gentille. Elle m'accordait beaucoup d'importance. Puis un jour, quand elle a disparu de ma vie, ben j'ai appris qu'elle avait rejoint le PKK, donc la guérilla kurde. Puis cette idée-là, qu'elle m'a jamais, en fait, fait ses adieux, m'a obsédée pendant des années. Donc, quand j'ai grandi, j'ai fait mes études en cinéma. Puis pendant que je faisais ma maîtrise en cinéma, j'ai décidé de faire un film sur elle, sur son parcours, sur ce qui l'avait amené à rejoindre cette guérilla-là. La première journée de tournage, moi et mon équipe, on se retrouvait en plein milieu de la guerre. Et évidemment, c'était impossible de faire un film sur Gulistan, qui d'ailleurs était décédée en 2000. Je voulais parler aux femmes.
Gulistan, je m'excuse, c'est qui? C'est quoi?
C'est la jeune femme qui me gardait quand j'étais jeune.
Ah, c'est son nom.
Ouais.
C'est Gulistan. Ah, OK.
Ouais. Puis j'ai traduit son nom, en fait, ça veut dire littéralement Terre de Rose.
Ah, wow.
Donc le film, en son honneur, est resté, le titre est resté. Et puis après avoir fait ce premier film-là, qui a répondu à beaucoup de questionnements que j'avais, évidemment, c'est une guerre. Et la plupart des femmes que j'ai filmées sont décédées. Et je voyais aussi, j'ai vraiment assisté à cette guerre-là sur place pendant plusieurs mois au début. Puis je voyais beaucoup de tueries, beaucoup de choses que, bon, que, qu'une guerre amène. Puis quand je suis retournée à Montréal, bien, je voulais faire honneur à ces femmes-là qui combattaient. J'ai décidé de faire un film, en fait, sur un deuxième film, sur cette figure de femme kurde qui était en charge de toutes les opérations militaires à Raqqa, donc la ville autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Cette espèce de Che Guevara féminin des temps modernes. Donc, tout le scénario était basé sur cette femme-là. Et quand on est arrivé, bon, pour le deuxième film, Rojek, c'était impossible de faire encore une fois le film que j'avais en tête parce que Rojda Felat, donc cette femme-là, était occupée à sécuriser ses frontières puisque la Turquie attaquait, menaçait d'attaquer. Donc, il y avait plein d'opérations militaires. Je sais que mon histoire est longue,
non, ça
mais...
va. C'est fascinant, par contre.
Ben oui. Et donc... Quand j'ai demandé à Rojda de faire mon film, elle m'a dit « Bien, c'est impossible. Bon, je m'occupe de mes frontières. » Et là, il fallait avec mon équipe penser à comment on se retourne de bord pour faire un film qui me tient à cœur. Là, rapidement, il fallait que je trouve une autre idée. Et dans le scénario original, bien, il y avait des scènes avec les gens de l'État islamique puis des conversations que j'avais avec ces gens-là. Puis... Bien, je me suis dit, c'est ce qui m'intéresse le plus au final.
Le témoignage de prisonniers, en fait, ouais. Des gens, ouais. Tu voulais comprendre l'envers de la médaille.
Même plus que ça, je pense, je voulais faire mon deuil parce que j'avais vu mon peuple mourir. Ça a été d'ailleurs les seuls qui se sont tenus contre l'État islamique. On se rappelle au début de la guerre, quand l'État islamique a attaqué, l'armée irakienne a fui, l'armée syrienne a fui. Et les seuls qui ont combattu l'État islamique, ça a été les Kurdes. Ce qui fait aussi en sorte qu'il y a des milliers de Kurdes qui sont décédés. Et ces femmes-là aussi que j'avais filmées sont décédées. Donc, pour moi, c'est une manière de me confronter à ces meurtriers-là puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène un être humain à commettre des actes aussi atroces et à se les expliquer. Mm-hmm. Puis à dire qu'ils font la bonne chose au final, parce que c'est ça qui est assez étrange, c'est que notre concept de bien et de mal est complètement inversé. Et c'est une expérience totalement étrange et bizarroïde dans le sens où eux, ils pensent que moi, je suis endoctrinée et moi, je pense qu'ils sont endoctrinés. Donc, c'est une discussion pas vraiment possible. La seule discussion qui est possible, c'est lorsque tu te mets dans une espèce de position d'écoute et que tu essayes de vraiment comprendre, mais d'une façon très sincère.
Mm-hmm. Si je peux me permettre aussi, oui. Quand j'ai vu ce film-là, moi, ça m'a vraiment marqué. J'étais comme dans une espèce de tunnel un peu cauchemardesque, mais en même temps, je trouve que l'objectif est réussi parce que plus j'écoutais les gens parler, plus je comprenais un peu le mécanisme de construction d'un idéal, finalement. Puis j'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre. On ne peut pas comprendre, finalement, une telle radicalisation. Mais j'ai aimé comment tu le fais, c'est-à-dire sans jugement. Et le spectateur se fait sa propre opinion, finalement, de ces gens-là qui veulent, finalement, quoi? Être heureux, trouver un sens à leur vie. Tu sais, moi, ça m'a beaucoup marqué quand il y avait une femme qui parlait de ça comme étant un état de bien-être, finalement, que c'était quasiment comme le paradis. Ça m'a vraiment marqué. Je trouve que c'est une œuvre humaniste importante. Ça m'a rappelé, je dirais, Shoah de Claude Lanzmann. Quand j'ai écouté Shoah de Claude Lanzmann, qui est comme... Combien d'heures, je ne sais plus, là, mais des heures et des heures, c'est des survivants et survivantes de la Shoah qui témoignent. Ça m'a rappelé ça dans cette approche très épurée. Donc, on ne cherche pas à... donner un ton. On ne cherche pas à juger et on a accès à un témoignage historique.
C'est ça qui est beau du cinéma, c'est que, comme dans le film de Zainé, c'est que des personnages qui sont perçus, qui peuvent être perçus comme des monstres quand on regarde les nouvelles, à travers ce film-là, on a vraiment accès à une humanité. À un moment donné, il y a un personnage qui se met à chanter. Puis on se dit, ah ben, OK.
Il y en a qui pleurent aussi.
Oui, il y en a qui pleurent. Puis on se rend compte, tu sais, il y avait un prof de théâtre qui nous disait que les deux choses que tous les humains veulent, c'est soit le désir d'être aimé, Et la peur de mourir. C'est les deux choses qui poussent tous les humains. Puis dans ce film-là, le désir d'être aimé, que ce soit ici ou au-delà, c'est extrêmement fort. Puis on voit aussi le pouvoir de la foi. Je veux dire, c'est pour ça qu'on dit toujours, on ne discute pas de la foi. Ces gens-là, ils croient vraiment en ce qu'ils font. Puis il y a quelqu'un qui disait qu'il était en Allemagne, puis qu'il y avait une belle vie, mais que malheureusement, il ne ressentait pas ce désir. Il ne croyait en rien. Puis en rentrant dans ces groupes-là, il a comme trouvé une raison de vivre.
Ayana, toi, tu dénonces quelque chose en présentant le mythe de la femme noire, parce que toi, tu es comédienne aussi. Et tu as joué facilement une quarantaine de rôles, puis tu t'es rendu compte qu'il y avait plein de stéréotypes qui venaient avec le fait d'être noir. Et là, tu as voulu parler de ces stéréotypes-là. Et c'est vraiment intéressant aussi. Tu déboulonnes justement des images qu'on se fait, c'est-à-dire de la femme qui est hypersexuelle, qui est agressive, mais qui est aussi...
qui prend soin de tout le monde.
Exact, qui prend soin de tout le monde et qui est aussi souvent identifiée comme quelqu'un de plus... basse, tu sais, quand on y va dans la hiérarchie, justement, donc automatiquement, on place les Noirs en bas de l'échelle.
Absolument.
Ça partait de où, ce désir?
Bien, au départ, effectivement, quand j'auditionnais, j'auditionnais toujours pour le même type de rôle. Donc, c'était la prostituée ou la maîtresse de quelqu'un, l'infirmière, la préposée, la gardienne d'enfants, ou le comic relief, comme on dit, donc la femme hystérique fâchée. Puis, quand j'ai posé la question à d'autres actrices noires, si elles vivaient la même chose que moi, elles disaient « Ah, ben oui, t'as raison, c'est souvent ça. » Fait que je me suis mis à faire des recherches là-dessus, parce que j'adore faire des recherches. Puis plus je lisais, plus je remontais dans le temps jusqu'à réaliser que ces stéréotypes-là, non seulement avaient des noms, mais avaient été inventés il y a des siècles et ont parcouru l'histoire pour se retrouver aujourd'hui, entre autres au cinéma, à la télévision et dans les vidéoclips. Fait que ce désir de faire ce film-là est surtout né d'un désir de partager cette information-là que j'avais eue, parce que moi, si je l'avais eue, il y a peut-être des choix dans la vie que j'aurais fait autrement. Par exemple, moi, quand j'étais adolescente, les modèles de femmes noires, il n'y avait pas tant que ça, étant donné que je suis née puis j'ai grandi à Montréal. Donc, je me rattachais beaucoup à ces images qui étaient véhiculées de la femme hypersexuelle qu'on voyait dans les vidéoclips ou de celle qui doit être forte, plus forte que tout, puis de prendre soin de tout le monde. Fait que... Et puis, c'est cette manière aussi de nous voir comme déshumanisés, de nous voir juste comme, comme tu viens de le dire, au ras de la société. Donc, je voulais pouvoir humaniser des femmes comme ma mère, ma grand-mère, mes sœurs et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film-là. Donc, en recherche, on a interviewé de nombreuses personnes. Et à la fin, le film va à la rencontre de 21 femmes qui racontent leur 21e siècle, puis qui racontent comment ces stéréotypes-là les ont affectées, puis qu'est-ce qu'elles font pour trouver leur place au soleil malgré ces stéréotypes-là. Puis c'est pas un film de victime, parce que je voulais pas qu'à la fin du film, on dise « Ah ben, pauvre elle ». Non, ce que je voulais, c'est que n'importe quelle femme ou homme qui regarde le film, non seulement se reconnaisse en elle, mais se sente « empowered », en puissancé, comme on dit en français, je trouve pas ça beau, mais c'est ça le mot. Ils ont empuissancé pour essayer de, eux aussi, à leur manière, dans leur vie, d'essayer de briser les barrières. Parce qu'on est toutes sujettes aux stéréotypes. Ces trois stéréotypes-là qui sont visités dans le film, ils ont des particularités pour les femmes noires, mais on les retrouve dans la plupart des peuples de la Terre, chez les femmes blanches. Il y a des femmes asiatiques qui sont venues voir le film qui ont dit « ben oui, moi aussi », des femmes autochtones, des femmes du Maghreb... Donc, ce désir de faire ce film, ça m'a pris 10 ans à le faire. Ça a été dur à certains moments. Mais ce qui me permettait de rester sur la traque, c'est que je visualisais à la fin des femmes qui regardaient le film puis qui étaient touchées.
Est-ce que vous avez l'impression, toutes les trois, avec vos documentaires, que vous avez changé le monde à quelque part? Même si ça peut être juste un petit peu, là, sans dire... Mais avez-vous l'impression que ça a opéré un certain changement autour de vous?
Ouf, quelle pression quand même, cette question!
Au départ, quand on part avec une vie, tu sais, 10 ans, 7 ans, 6 ans, tu sais, je me dis, il faut avoir des convictions, il faut vouloir au moins laisser quelque chose, une trace avec le documentaire.
Mais moi, j'ai toujours voulu changer le monde. Je veux dire, depuis que je suis enfant, je veux changer le monde. Mais je trouve que c'est un peu... Ça serait prétentieux de notre part de dire on veut changer le monde. Par contre, oui, ça contribue, je pense, à discuter. Déjà, de parler de nos sujets, c'est important. Puis nous, on avait une démarche qui était aussi citoyenne à côté, qui était de faire un programme, finalement, d'éducation dans les écoles. Puis le film a
a été présenté à plus de 60 000 jeunes. On a créé des situations d'apprentissage aux élèves, donc des cours, là, des fiches pédagogiques pour accompagner la déconstruction des discours haineux. On va travailler avec la police aussi. On va les former sur la question des cyberviolences en collaboration avec l'école de police.
Puis... c'est un peu ça, changer le monde.
Mais oui, je pense que...
Mais c'est juste qu'on le fait pas en pensant à ça.
On le fait pas en pensant à ça, mais à un moment donné, moi, c'est l'équipe de producteurs avec qui je travaille, puis Guylaine Marois et Éric Cruel, eux, ça fait partie de leur ADN. Ils veulent changer le monde et ils accompagnent toujours leurs films avec, finalement, des projets pédagogiques, des revendications. Puis j'ai rencontré des gens qui étaient encore... Bien, je suis assez engagée, mais qui sont beaucoup plus engagés que moi-même, je dirais. Guylaine et Éric, c'était important pour eux d'aller au bout de ça. Donc, on a fait des pétitions. Oui, on est à la Chambre des communes, on a exigé des législations. Par contre, moi, je n'ai pas fait le film dans cet élan-là. T'sais, j'ai fait le film dans un élan créatif et je sentais qu'il y avait besoin de démystifier justement les violences et la misogynie, de la déconstruire, de la montrer, pas de la comprendre, par contre. Ce n'est pas ça l'objectif du film, mais de voir un peu l'ampleur des dégâts. Mais donc, oui, je pense qu'on change un peu les choses, mais...
Ah, sûrement.
Je vous regarde.
Non, mais sûrement, moi, j'y pense pas du tout. Là, quand je fais un film, j'y vais vraiment, c'est très instinctif, comme tu le disais tout à l'heure. Mais clairement, tu sais, ça change les choses. Du moins, en tout cas, moi, mes films dérangent beaucoup. Puis je suis sûre que les vôtres aussi. Je dérange des gouvernements, je dérange toutes sortes de personnes.
Ah oui, comme qui?
Encore une fois, ça change le monde. J'ai l'impression que si tu déranges, c'est parce que ça change à quelque part. Quand tu dis ça dérange les gouvernements,
ouais, ben, tu sais, dans mon film, c'est pas moi qui le dis, mais comme quand j'interviewe les gens de l'État islamique, puis ils me parlent de qui les a aidés, comment on les a aidés, ben évidemment, tu sais, c'est des choses que certains gouvernements voudraient pas. Que ça soit sur la place publique aussi franchement, puis par des gens qui ont activement participé, tu sais, à l'État islamique. Ou, par exemple, des gouvernements de différents pays qui voient leurs citoyennes dans mon film et on les rapatrie pas, tu sais. Et puis ils sont dans une espèce de no man's land où il n'y a rien, il n'y a pas de procès parce que les Kurdes sont beaucoup trop occupés. Ce n'est pas vraiment un pays, c'est une région, ils sont occupés à se défendre. Il n'y a pas de gouvernement qui est accepté par les autres pays. Donc, tout ça fait en sorte que c'est un film qui, effectivement, doit probablement déranger, je dirais. Je ne sais pas si ça fait tant changer les choses.
Ayana?
Changer le monde, non. Changer des personnes et des consciences, oui. Pour ceux qui sont venus voir le film, puis il y en a beaucoup qui sont venus le revoir avec des membres de leur famille, de leurs amis et tout ça, pour susciter des discussions. Il y a des gens qui sont venus me voir dans les questions-réponses que j'ai faites pour me dire qu'ils en ont braillé, qu'ils veulent aller consulter des thérapeutes. Tant mieux, tu sais. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils vivaient, c'était pas unique à eux autres, qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui vivaient la même chose. Fait que ce désir de vouloir changer les choses une personne à la fois, c'est vrai que je l'ai. J'ai pas la prétention, comme le disait Léa, de vouloir changer le monde, mais je me dis qu'à long terme, peut-être que ces personnes-là qui vont être peut-être des leaders d'une famille, d'une compagnie, de quelque chose, qu'éventuellement ce rayonnement-là va se faire, puis que c'est, tu sais, chaque goutte compte. Il y a mon film, celui de Léa, celui de Zainé, puis d'autres films aussi. Éventuellement, je pense que ça fait une différence.
Et trouver vos invités pour participer au documentaire, parce que, tu sais, je regarde Je vous salue, salope, là. Il y a Laura Boldrini, qui est la femme politique qui a été la plus harcelée d'Italie. Vous avez parlé aussi avec Kia Morris, qui est une politicienne afro-américaine. Elle s'est fait écœurer, mais pas à peu près. Là. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Il y avait Marion Séclin, qui est une YouTubeuse française. Elle aussi, qui a été victime de... T'sais, je veux dire, si je regarde les noms que vous avez mis dans votre documentaire, comment vous avez fait pour trouver ces protagonistes qui sont hyper forts? Puis je sais que vous avez fait... Tu sais, vous êtes allé plus large là, dans vos entrevues.
Mais il y a aussi Donna Zuckerberg, qui est la sœur de Mark Zuckerberg, qui refusait de donner des entrevues.
Et ça, c'est finalement génial,
elle est critique. Mais en fait, on ne s'est pas mis de barrière. Moi, je ne voulais pas faire un film que québécois. Parce que je me disais, si on fait un film juste québécois, avec des gens québécois, on va dire, oui, mais c'est telle personne qui a des prises de position. Je pensais qu'on allait avoir un jugement, en fait, puis qu'on serait moins ouvert à la discussion. Donc, c'est pour ça que je voulais des gens de tout être cabis. Mais là, ça a été tout un travail, en fait. Moi, j'ai épluché, on a épluché des journaux, on cherchait à travers vraiment des je dirais même des brèves. Par exemple, Kaya Morris, c'est dans un journal local du Vermont qu'on a découvert son histoire. Laura Boldrini, moi, c'était un article, dans, je pense, dans le New York Times ou dans Politico, un des deux, et j'avais lu son histoire, et là, je m'étais dit, elle, c'est elle qui doit être dans le film. Et c'est curieux parce
c'est
que...
C'est toi qui lui as écrit? Comment oui. ça, c'est toi donc, qui faisais toutes les démarches?
Ben, oui, c'était Guylaine et moi. Puis Guylaine et moi, ouais, on faisait toutes les démarches de la recherche. On avait aussi une recherchiste, mais je dirais que on était tellement convaincus, Guylaine et moi, que quand on prenait le courriel puis qu'on s'y mettait, ça marchait. Mais Laura Boldrini, c'est drôle parce que quelques semaines après avoir découvert son parcours, j'ai été invitée à une conférence à Paris, à la rentrée du barreau de Paris. Il me demandait de venir faire une conférence sur les cyberviolences. Parce que je venais de publier un texte dans le journal Le Monde. Tout un hasard. Alors moi, je me retrouve là, je me dis, OK, je vais y aller, c'est un signe du destin. Puis je vais pouvoir demander à Laura Boldrini de vive voix de participer au film. Puis finalement, elle était malade.
Tu vois, c'est un imprévu.
Là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là? Mais bon, c'était quand même intéressant. Mais ça a été, c'est de l'acharnement, hein, convaincre Laura Boldrini et son équipe. Mon conjoint est italien, donc il m'aidait aussi à communiquer en italien des fois, ou en tout cas à communiquer avec les équipes qui n'étaient pas du tout intéressées à nous parler. Qui sommes-nous? Je veux dire, ils savent pas on est qui, il n'y avait aucun intérêt. Moi, on s'est rendu en Italie, je ne savais même pas si elle allait vraiment me donner une entrevue.
Wow.
C'était comme flou un peu. Là. C'était genre, ben oui, on va y aller. T'sais. Puis on s'est posé des questions, ça, je veux dire. Mais on est allé, ça s'est bien passé. Donna Zuckerberg, je veux dire, c'est aussi de l'acharnement dans le sens où...
Un essai, deux essais, trois, quinze...
Cinq, six essais. Puis finalement, ça a été par Twitter. Puis j'ai dit, moi, j'ai étudié comme toi en idées politiques. On a tous les deux un doctorat en idées politiques. J'aime ton travail. J'ai lu tes livres. Je suis pas là pour faire du sensationnalisme. Veux-tu faire une entrevue? T'sais, j'ai sorti les grands arguments. Sinon, ben écoute, ça a été tout un combat. Kaya Morris aussi. Guylaine s'est rendue aux États-Unis pour la convaincre, pour lui prendre un café, la rassurer. C'est un travail de longue haleine. Là, je fais un film sur l'avortement. Je pense que j'ai écrit à une centaine d'associations aux États-Unis sur Instagram. Tu sais, mon chum, il est comme, qu'est-ce que tu fais sur Instagram encore? J'essaie d'avoir des intervenants dans mon film.
Ayana, t'en as 21 femmes.
Oui.
T'as le plus gros casting. Je pense que t'as pas été capable de faire le tri, tes amis, les 21 dans ton film.
J'en avais genre 60 qui ont été interviewés.
Ah oui?
Oui, oui, j'en ai interviewé plein. Puis moi, contrairement à Léa, c'était vraiment pas compliqué. Tout le monde voulait parler. Ce sont des femmes qui ont été invisibilisées pendant des années, qui avaient des choses à dire, des choses à raconter et à qui on ne posait jamais de questions. Donc, moi et mon équipe, on leur a parlé. Puis c'était un flot infini d'histoires fascinantes, d'informations précises. Donc, c'était très difficile de ramener ça à 21. Puis j'aurais pu prendre trois femmes, puis les suivre dans leur vie, puis parler des stéréotypes pareils. Mais étant donné que je savais que je parlais de quelque chose... je parlais de stéréotypes et qu'il y avait des choses à prouver. Je savais qu'en prenant juste trois ou quatre femmes, j'allais me faire dire que c'est anecdotique, que ça arrivait seulement à ces trois ou quatre femmes-là. Tandis qu'avec 21...
La force du nombre.
Exactement, la force du nombre qui raconte des histoires différentes, oui, mais avec des courants communs. Là, c'était plus dur de challenger la force des stéréotypes dans la vie des femmes noires. Donc, c'était... puis le fait que je sois une femme noire derrière la caméra qui leur pose des questions puis qui partage avec elles mes propres informations, ça a donné des entrevues extrêmement libres où elles se sentaient en confiance de me dire des choses extrêmement crues, extrêmement brutes, qui ont pu choquer dans les salles de cinéma, mais c'était le fun. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà assisté dans des projections au cinéma où il y a beaucoup de noirs, mais on parle à l'écran, et puis on se fait des commentaires entre nous. Oui. Puis on dit, ouais, c'est vrai, tout ça. Donc, c'est quasiment une expérience, comme dans les églises, si on veut, de communauté noire. C'était ce genre d'expérience.
Communion.
Exactement.
Okay.
Puis c'est ça qui était le fun. Puis ça, c'était dû au fait que ces femmes-là ont parlé vraiment directement sans filtre. Il y a aussi des gens, par contre, que je voulais interviewer, puis qui ont carrément dit non. Des gens qui étaient sur la scène publique. Puis ces femmes-là, noires, qui étaient plus devant la caméra, elles m'ont dit non parce qu'elles voulaient, elles avaient peur qu'en parlant, que ça allait affecter leur carrière éventuellement parce qu'elles disent, tu sais, dans la position où je suis, si je me mets à me plaindre en plus, vu que je suis déjà privilégiée d'être là, je vais pas en plus, donc je préfère me taire puis demande à d'autres femmes de parler à ma place.
Zainé, je sais pas comment t'as fait pour convaincre des gens en prison de te parler. Je suis vraiment curieuse de le savoir. Est-ce que ça a été complexe?
Ben, dans mon cas, on ne peut pas vraiment convaincre. Là. Ben, tu le dis bien, là, Léa, c'est vraiment... Il faut être honnête puis leur expliquer. Moi, j'en ai rencontré une centaine. De ces centaines-là, il y a à peu près 50 qui ont accepté de faire l'entrevue avec moi. Puis de ces 50-là, il y en a 15 au final qui sont restés au montage. Puis j'essayais pas de les convaincre. Au contraire, je pense que j'étais très franche. Tu sais, je leur disais qui j'étais, qu'est-ce que j'avais fait comme film avant, pourquoi je faisais ce film-là.
Et puis, pourquoi ils ont accepté, selon toi?
Puis évidemment, ils voyaient que j'étais une femme qui parlait plusieurs langues, que je venais de l'étranger, fait qu'ils savaient tout ça. Ça, les gens me posent souvent cette question-là, puis je pense qu'il n'y a pas une réponse valable pour tout le monde. C'est du cas par cas. Si je prends un exemple, un des exemples dans le film, je pense que c'est parce que la personne voulait absolument démontrer qu'elle n'avait pas du tout changé. Puis c'était une fierté pour cette personne-là de dire « mais non, j'y crois toujours, je vais me battre jusqu'au bout ». D'autres personnes, c'était probablement d'espérer peut-être de sortir de prison, mais en disant « tu sais, je regrette pas ce que j'ai fait, mais j'aimerais tellement revoir ma famille, donc je vais essayer d'être un peu repentante devant ta caméra tout en, tu sais, en jouant sur les deux plans ». Fait que je pense que ça dépend vraiment du cas par cas. Certains, c'était vraiment de dire « Ah, mais c'est une fenêtre incroyable, je vais pouvoir dire tout ce que je pense. » C'est que c'est pour toutes sortes de raisons. Moi, quand je leur posais des questions, je leur disais « Bien, je vais essayer de... Je ne coupe pas au montage, donc je te donne une minute pour me répondre. » Puis il y avait l'occasion aussi de recommencer.
Wow, fait que, c'est super, intéressant. C'est super technique.
Ah oui, puis... C'est intéressant. Tu sais, j'ai fait ma maîtrise sur les relations en documentaire, puis comment tout le concept d'entrevue. Fait que j'ai mis en pratique toute la théorie que j'ai appris, en fait, puis je les ai impliqués dans le processus. Donc, je leur disais, tu sais, c'était très technique, en fait, mes entrevues, dans le sens où j'avais malheureusement pas l'espèce de miroir là, qui existe en documentaire pour que la personne interviewée se voie, mais j'étais derrière la caméra. Donc, ils pouvaient voir mes yeux j'avais un code je parlais pas, mais je faisais des codes. Donc, si la personne parlait trop, ben il fallait évidemment que ça se coupe parce qu'au bout d'une minute, c'était trop long pour le mettre au montage. Fait que je faisais ça. Fait qu'elle comprenait. Donc, j'avais expliqué un peu.
Un petit geste de main, là.
Oui, ça, ouais. Ça voulait dire, ben wrap it up.
Lance-toi.
Donc, j'ai pratiquement jamais coupé dans ce qu'il disait dans le film. Fait que c'est les intégrales de toutes mes questions. Puis quand les gens sentaient, disaient « Ah, oh, je veux la refaire d'ailleurs dans le film », j'ai même montré un peu le mécanisme. Il y a une femme qui me parle d'Oussama Ben Laden et de tous les autres terroristes de ce monde, comment elle les admire. Puis elle va le refaire, dans la réalité, elle va le faire comme trois fois. Puis dans le film, elle me dit « Mais est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois recommencer? Qu'est-ce que tu en as pensé? »
Mais c'est même intéressant parce qu'à un moment donné, il y en a une qui enlève son voile. Puis là, on tombe sur un plan noir.
Puis c'est là qu'elle dit, cette conversation-là, elle dit « Est-ce que c'était bon? Est-ce que tu voudrais que je recommence? Est-ce que tu as bien compris ce que j'expliquais? »
Tu avais coupé, en fait, tu avais uniquement le son quand il y a eu
Oui, parce que c'est dévoilé complètement.
OK.
On a mis du noir. Puis je voulais quand même montrer l'espèce de concept de performance. Les gens, peu importe, ils veulent performer aussi devant la caméra. Surtout ceux qui veulent vraiment participer à un documentaire. Tous ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils voulaient vraiment être dans le documentaire. Mais la personne que tantôt tu as nommée qui chante, lui, il voulait vraiment me chanter des chansons. Tu sais, il était passionné. C'était un personnage assez bizarre. Je l'appelle un personnage parce que vraiment, tu sais, il coupait des têtes dans l'État islamique. Il chantait des chansons. Aïe. Fait que c'est quand même très perturbant d'être face à ce type de personne-là. Puis il me disait, moi, j'adore Sean Desmond. Puis il me disait, mais je me rappelle pas exactement c'est quoi les chansons. Puis là, il m'en chante quelques-unes. Puis après, il me dit, je vais t'écrire les paroles, tu vas les apprendre. Fait que là, le soir, j'écrivais des paroles de chansons, je lui amenais. Puis là, lui, il les mémorisait. Puis la journée suivante, je revenais. Puis là, il me dit, je les ai appris, c'est parfait, tu m'as fait tellement...
Il est tellement doux, en plus, lui. Ben oui. Il est super... Mais je le trouve...
Mais dans le film, on le voit, je montre une vidéo de propagande qu'il a faite. D'ailleurs, c'était un des seuls qui se cagoulait pas. Donc, on voyait, parce que lui, il voulait vraiment se prouver. C'était un chia qui s'est converti au sunnisme extrémisme. qui voulait prouver aux gens de l'État islamique qui allait au bout, donc il ne se couvrait pas le visage. Puis dans le film, on le voit, je montre un petit extrait où il est sur le point de couper la tête de quelqu'un. Puis
tu n'as pas voulu expliquer leur crime nécessairement parce que tu voulais enlever ce jugement-là quand on était pour regarder ton film.
Je voulais pas enlever ce jugement-là parce que c'est impossible en tant qu'être humain de pas juger quelqu'un qui a perpétré des meurtres aussi atroces. C'est impossible. Mais pour moi, c'était pas important que ce soit, t'sais, que ce soit un général d'une province, que ce soit un fabricant d'armes, que ce soit un théologue au sein de l'État islamique, que ce soit un émir, que ce soit... Ça m'importait peu. Ce qui m'intéressait, c'était comment on arrive à ça. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain... on ne naît pas mauvais dans la vie, on le devient. Mm-hmm. Et donc, comment on le devient?
On s'est les trois intéressés à la déshumanisation.
Ben c'est oui. Intéressant. C'est votre lien commun, tu penses?
Oui, je pense que oui.
Entre
si on était à l'émission de Curieux Bégin.
Il y a du monde à la
ah oui, c'est ça. Excusez-moi pour la télé québécoise.
On sent notre pancarte.
Hello, le lien.
Oui, c'est ça.
Curieux Bégin.
Zainé, tu es allée tourner ton documentaire Rejet en zone de guerre. Comment on se prépare pour aller tourner dans ces conditions-là?
Dans l'État islamique, il y avait un grand respect pour la femme. Je me sentais vraiment dans un monde où la femme est quelque chose de sacré.
On s'est préparé à tous les cas de figure, parce qu'évidemment, quand on est en Syrie, on est coupé du monde. Il n'y a pas possibilité, s'il y a quelque chose qui brise, impossible de le remplacer, impossible de sortir du pays, parce que quand tu sors, c'est fini, tu ne peux pas rentrer. Donc, on avait... Déjà dans mon premier film, j'avais instauré un style face à la caméra avec mes entrevues. Donc, je savais que j'avais besoin de toute la technique pour faire ce type d'entrevue-là. Archie Shakiba, un des directeurs photo, a amené l'idée d'amener un drone. Puis, je trouvais ça absolument génial parce que c'est quand même quelle belle façon d'illustrer un pays qui a été complètement détruit. Tu sais, autant qu'on peut le filmer d'une façon micro et macro aussi. Puis on avait des vieilles lentilles qu'on a empruntées à l'ONF d'ailleurs, beaucoup trop chères pour notre budget. Fait qu'on avait fait beaucoup de tests. Puis quand on est arrivé sur place, on prenait le temps, malgré le fait que, tu sais, des fois, c'était vraiment très... c'était à l'instant où ça se passait, là.
Toi, Léa, c'était comment?
C'est-à-dire que nous, dans Je vous salue, salope, on voulait vraiment être à la fois dans l'intimité de ces femmes-là. Donc, vous savez, tu sais, sur les réseaux, je dirais, misogynes, on dit souvent « get back to the kitchen ». Alors, moi, je trouvais que c'était intéressant de retourner dans la cuisine de ces femmes-là, puisqu'on leur dit de retourner à la cuisine spécifiquement. Et que cette cuisine-là, tu sais, Marion, on la voit à un moment donné faire son thé. Laurence est dans sa cuisine aussi. Il y a la bouilloire, il y a tout ça dans leur quotidien. Puis c'est quand elles parlent justement de leur traumatisme vécu dans leur témoignage. Donc ça, pour nous, c'est important. Mais aussi, à un moment donné, elles sortent de leur maison. Donc, elles occupent l'espace public, chacune à leur façon. Puis pour moi, l'espace public, les rues sont importantes dans le film parce que ça représente justement cette conversation sociale qu'on a. C'est-à-dire que le web, c'est un espace public. Puis l'espace public, c'est aussi la rue, c'est le web également. Donc, il y avait ce souci là de montrer finalement à la fois le territoire, mais leur vie, parce qu'elles venaient d'endroits évidemment différents, de plusieurs pays différents. Donc, ça nous fait également respirer de sortir suite à des témoignages extrêmement étouffants, tu sais. Puis même, c'était spécial d'aller chez Laura Boldrini, tu sais. J'étais dans sa petite cuisine à Rome. C'était curieux d'être là. Puis ça, je trouvais que c'était une façon de faire intéressante pour nous, là, de montrer ça.
Elle était à l'aise, est-ce que vous...
Elle était très à l'aise, mais moi, j'étais comme, je suis dans sa toilette, je vois une photo de sa fille, puis j'étais comme, wow, t'sais, après avoir été au Parlement avec elle. Donc, il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect que je voulais que, justement, on a utilisé aussi des prises de drones, en fait, pour montrer les territoires et les villes. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir une dichotomie sur le plan visuel entre la laideur des réseaux sociaux la laideur des violences en ligne et la beauté des endroits. Je trouvais ça intéressant
Et ça permet d'ailleurs de souffler, je trouve. Quand on écoute le film, on sort de... C'est très anxiogène. Puis dans le traitement, moi, il y a une grande part qui était aussi de comment est-ce qu'on montre les violences en ligne. Puis chaque mot que vous voyez à l'écran, c'est moi qui l'ai retapé, tu sais.
Ouais.
Puis qui l'a mis à l'avant. Puis ça a été un travail extrêmement difficile de... de mettre ça de l'avant, mais on a voulu vraiment le montrer tel que c'était. Mais tu vois, ça sort de la direction photographique, mais ça prend un... Je pense que c'est quasiment un personnage, là, la violence en ligne. Puis donc, c'est ça, on voulait faire quelque chose qui soit bien dosé entre cette laideur-là, c'est assez horrible, tu sais, et cette intimité-là des femmes.
Ayana?
Ce que je voulais, puis c'est un choix conscient de ma part, c'est de faire un film des entrevues puis des archives. La partie des archives visuelles, ça a pris presque 2 ans pour libérer les archives. C'est quelque chose que je n'ai pas dit plus tôt, que même si j'ai eu beaucoup de oui du côté des personnages, j'ai eu beaucoup de non du côté des archives. Mm-hmm. Parce que quand on arrivait auprès des ayants droit puis qu'on leur disait, on fait un film sur les stéréotypes associés aux femmes noires, fait que dans ta série, justement, il y a une prostituée qui est une femme noire, on veut prendre cet extrait-là pour le mettre dans notre film pour illustrer le stéréotype de Jézabel.
J'ai été moins enchantée. Hein?
Exactement.
Ah oui, puis tu pouvais pas faire comme du fair use vu que tu critiquais l'œuvre.
Non, à cause des assurances.
Ah,
ouais, parce qu'il y a une certaine limite par rapport au fair use. On a travaillé très fort avec l'avocat là-dessus. On a essayé de lui dire ça, puis c'était non. Donc, il y a quelques fair use dans le film.
Du fair use, là, c'est... Hey, on est technique. Ah, ben, c'est quand, par exemple, un intervenant commente une archive, ben là, on peut finalement négocier pour ne pas avoir de droit à payer, okay. Puis on peut, tu sais, le garder.
Utiliser l'archive sans avoir à payer.
Okay.
Mais il faut faire avec ce qu'on a. Donc, si c'est un DVD quelque part, tu t'arranges pour prendre le DVD. Donc, tu n'as pas demandé la permission à l'ayant droit. Dans le film, on a demandé à plein de monde, la plupart des archives que je voulais, tout le monde a refusé. Producteurs, distributeurs, ayant droit d'archives, ça a été non. L'équipe d'archives visuelles a travaillé extrêmement fort, puis en plus, c'était pendant la pandémie, pour essayer. Tout ce qu'on voulait, c'est illustrer, puis on avait beau leur dire qu'on ne veut pas du tout critiquer cette archive-là en particulier, on veut juste illustrer ce stéréotype-là. Puis dans le film, on le voit, ça passe rapidement, mais malgré tout, ça a été des non. Donc, ce côté-là a été extrêmement confrontant, extrêmement violent. J'ai des amis producteurs qui m'ont dit « Tu devrais juste les dénoncer dans les médias. » Je dis, ben là, c'est pas ça le but du film, mais en tout cas. Donc ça, c'est la deuxième couche du film. Puis la troisième couche, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que d'avoir des entrevues puis des archives, c'était beau, ça marchait, mais ça manquait de souffle dont Léa parlait. Puis ça manquait aussi de quelque chose qui unifiait toutes ces voix-là. Donc, il y a eu un tournage supplémentaire par la suite en cours de montage où l'idée, c'était de suivre une femme qui marchait à travers la ville.
Avec la belle robe jaune.
Exactement, ouais. Avec la robe jaune. C'est Kimberly Surin qui fait ce rôle-là. On la voit toujours de dos. Et elle passe d'un milieu extrêmement urbain, dur et surtout en déconstruction. C'est pas dur de trouver à Montréal des places qui sont des déconstructions avec des cônes puis tout ça. Et plus elle avance dans le film, plus elle se retrouve éventuellement à travers ce chemin-là en pleine nature. Fait que pour moi, c'était aussi une allégorie qui signifiait qu'on allait déconstruire les stéréotypes, déconstruire qui sont les images perçues de ces femmes-là, puis qu'on allait se retrouver au centre de leur vraie nature. Puis à la fin, on voit Kimberly avec d'autres femmes qui partent de différentes teintes de peau, parce qu'on l'a vu récemment avec Mara Jolie, les noirs, ça va de blanc jusqu'à extrêmement foncé.
Exactement. Il y a un dégradé.
Exactement. Donc, pour moi, c'était important de mettre tout ça de l'avant, puis qu'à la fin, non seulement qu'on se sent proche de ces femmes-là, mais qu'on apprenne à apprécier leur beauté, aussi bien intérieure qu'extérieure.
En terminant, j'ai une question quiz, puis je vous laisse répondre au meilleur de votre connaissance, mais on a parlé en début d'entrevue du temps que vous avez mis à faire vos documentaires, 7 ans, 10 ans, 6 ans. Quand est-ce qu'on sait que le documentaire est fini?
Oh, il est fini. Je pense qu'on pourrait continuer pour toujours.
Ouais.
Il faut juste comme ça l'imposer.
Il faut s'imposer une fin parce que...
Puis à un moment donné, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'ai comme des publics, des gens à qui je demande de regarder le film. À un moment donné, quand les opinions sont toutes différentes, je sais que le film est fini. Quand il y a des commentaires qui reviennent, c'est toujours les mêmes. Bon, OK, il y a encore des choses à changer. Mais éventuellement, c'est tellement trop précis ce qu'ils voudraient changer que là, je sais que c'est fait.
Mais je pense que c'est, des fois, ça peut aller plus vite aussi. On parle de 7 ans, mais c'est aussi d'attendre le financement.
C'est surtout
ça. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, il y a comme un ralentissement créatif. À un moment donné, je suis comme tannée. J'ai plus le goût, je suis écœurée de tout, donc j'arrête. Non, mais dans le sens, on a besoin de pause et d'accalmie. Puis des fois, de se reprendre un élan créatif, c'est ça qui devient long aussi. C'est l'attente du financement. Donc, je pense que si on était comme peut-être plus immergé, ça irait plus vite. Je veux dire, c'est pas obligé de prendre 7 ans tout le temps, là. Je sais pas.
Ben oui et non.
Ouais.
Vas-y. Moi, ça m'a pris 3 ans de trouver un directeur photo.
Ah, c'est ça!
Qui est-ce qui veut venir en série en zone de guerre? C'est quand même compliqué de trouver ça, tu sais. C'est compliqué de passer la frontière. À chaque fois, la frontière se fermait, se réouvrait, se fermait. Fait que moi, pendant 6 ans, à chaque 6 mois, je pensais que j'y allais.
Aïe, aïe, aïe.
Mais un coup que t'es partie, ça s'est quand même fait plus rapidement.
Ben, 6 mois. T'sais, c'est quand même très long. Là, pour
6 mois?
6 mois à tous les jours, c'est quand même très, très long.
Attends, t'as tourné 6 mois à tous les jours? Wow!
Oui. Bien, pas tout à fait tous les jours, parce qu'il y a un mois où on était pris à la frontière. Fait qu'on est resté en Irak pendant un mois à filmer d'autres choses, à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut explorer à cet endroit-là avant de passer à la frontière. Dès qu'on a passé, c'était à peu près à tous les jours. Fait que c'était assez intense là, comme tournage. Tu manges mal, tu dors mal, il fait chaud.
Aïe, aïe.
Tu vis avec les coquerelles, avec les bedbugs, tout ce que tu peux t'imaginer. Là, fait que ça a été ça a été long et pénible, mais j'ai jamais su quand est-ce que c'était fini. Juste le processus était long et pénible. Puis à un moment donné, je pense que j'ai comme juste dit « Ah, je suis plus capable. » Fait que ça va arrêter.
Ouais, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il y a aussi les paramètres de l'industrie, c'est-à-dire le distributeur attend le film, le diffuseur aussi. À un moment donné, il faut mettre un point final. Puis pour rebondir sur ce que Léa a dit tantôt, c'est vrai que l'industrie fait que tu arrêtes à un moment donné. En cours, c'était 10 ans, mais c'est pas 10 ans en continu. À un moment donné, à la SODEC, après 3 fois, on peut plus redéposer. Fait que c'est ça qui est arrivé. Une fois par année, à l'époque, en tout cas. Donc après 3 ans, on a mis le film sur une tablette. Après, on est revenu avec un nouveau contenu, de nouvelles choses. Donc, c'est vrai que le film, au fur et à mesure des dépôts, il s'enrichit, il se rebâtit, il se restructure. Puis c'est ça qui est le gros de la job, parce que dans mon cas, je produis aussi ce que je réalise.
Ça,
fait que c'est ça qui fait que c'est encore plus long.
Si je peux me permettre, il y a un sujet tabou, là, l'argent là, et la rémunération des documentaristes.
En fait, c'est la question que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on souhaite au documentaire?
Ah, ben, de l'argent.
De l'argent. Qu'on vive avec le documentaire.
Mais c'est comme l'écriture. T'sais, moi, j'écris aussi. Ouais. Je veux dire, on est peu payé. C'est une question de contexte économique, je comprends. Mais j'ai assisté à un moment donné à une masterclass en ligne de Ken Burns, le documentariste, puis il disait, la première règle, trouvez-vous un emploi pour payer votre hypothèque et la garderie de vos enfants à l'école, puis faites du documentaire par passion. Tu sais, je pense qu'il y a aussi pendant 7 ans, on peut pas juste vivre du documentaire, du financement qu'on a reçu pendant 7 ans. C'est impossible. On fait tous autre chose. Donc, il y a aussi ça, tu sais, qui vient en ligne de compte, c'est-à-dire qu'on travaille ailleurs, on fait d'autres choses, parce que c'est ça. Donc, moi, je souhaite au documentaire de l'argent, du rayonnement, puis qu'on prenne ça au sérieux, parce que ça fait des films qui font changer, je trouve, les mentalités. C'est incroyable, la vie de ces films-là, mais il y a aussi une fatigue qui vient avec ce travail-là, parce que c'est peu rémunéré. C'est ça, la réalité.
Moi, à chaque fois que j'en ai fait juste 2, puis je me dis, je vais lâcher. J'ai fini. J'en fais 1, puis après ça, j'arrête. C'est parce que c'est extrêmement demandant. Tu fais tout. Moi, tu sais, je suis coupée du monde. Je fais tout seul. Là, c'est tellement, à un moment donné, tout à l'heure, je le disais avant d'aller en entrevue, bien, mon cerveau a arrêté. Il ne voulait plus fonctionner après 6 mois. Fait que je pense que c'est là que j'ai su que c'était la fin.
Moi, je faisais des cauchemars à la fin aussi, de monter des discours haineux, d'être tout le temps plongé là-dedans. On ne fait pas des sujets faciles. T'sais, ma mère est comme, quand est-ce que tu vas prendre un sujet léger? Je suis comme, ben, je ne ferai pas de film sur la croissance personnelle. Je suis désolée. T'es dark, hein, ma fille? Je suis comme, ben oui, je suis dark. Mais ceci dit, c'est vrai que je faisais des cauchemars à la fin. J'avais une fatigue mentale. Mon chum ne me reconnaissait plus. Puis, tu sais, j'ai pas envie de me rendre là une prochaine fois. Là.
Si on a à suggérer aux gens d'aller voir vos films, parce que les 3 films sont super bons, puis là, on nous demande tout souvent la question, où est-ce qu'on peut les voir, vos films? Vous répondez quoi?
Bien, le mythe de la femme noire est disponible sur Crave, Illico, TELUS, la page Vimeo du distributeur. Puis en début d'année, il va être sur Native TV, qui est le nouveau diffuseur.
Fait qu'il n'y a pas de raison.
Voilà. Okay.
Même chose, il n'y a pas de raison. Tu tapes Rogec, puis tu vas le voir sur plusieurs plateformes. Tu sais, Maison 4 Terres, Apple TV, il y en a tout plein.
Est-ce qu'il est disponible gratuitement ou il faut toujours payer?
Il faut toujours acheter.
C'est bien. Ben, dans ton cas?
Nous, je pense qu'il est sur... Comment ça? Vrai. Vrai, c'est ça. Il est aussi sur le site jevoussaluesalope.com en vidéo sur demande. Oui. Donc, on loue. Il faut louer. On débourse 6 $ à peu près. Bien, il faut le faire. Il faut encourager. Puis, je pense que c'est ça. On a commencé, en fait, à le lancer aux États-Unis. Là. Il a été lancé cette semaine. Donc, il va être dans des salles aux États-Unis.
Bravo.
Ouais, merci. Puis, il est toujours possible d'organiser des ciné-conférences ou de le présenter dans les écoles. Il a été aussi présenté en France où la réaction a été mitigée.
Mitigée?
Ben oui, il y a des gens qui n'étaient pas du tout contents qu'on parle de ces sujets-là. Là, il y a comme la France est un autre contexte culturel et il y a des gens qui trouvaient qu'on était très heavy metal. Il y a des gens qui ont adoré. Mais bref, il est disponible partout. Mais ouais, non, ça a suscité de la grogne, là.
Bien, il n'y a pas de raison de ne pas voir vos films. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment les trois, toutes les trois, hyper inspirants. Moi, j'ai vraiment eu un bon moment en votre compagnie. J'aurais pu passer encore 2 heures.
Merci qu'on a la création de parler documentaire comme ça. C'est génial.
Merci de le porter aussi parce que, tu sais, vos films ont été vus à l'étranger puis de porter aussi des causes sociales comme celle-là. Alors, Léa, merci. Zainé, Ayana.
Merci les filles.
Merci d'avoir été avec nous. Pour réécouter les épisodes, allez sur Spotify, Google Podcast, Apple Music et sur les plateformes de Cogeco. Sortez le Popcorn est une production de Push-Up Media, à la réalisation Fred Perron, au mix sonore Olivier Couture, à la recherche et à la production de contenu Stéphanie Gagnon, à la coordination Béatrice Langlois-Bété, au design graphique Simon Lagneau, à la vidéographie Studio Campus, aux communications numériques et promotion Sandrine Couture. C'était votre animatrice Catherine Beauchamp qui vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortez le Popcorn.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
Des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.